que ça va, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Quand John Cage a commencé à mettre des clous et des gommes sur les cordes d'un piano, il rappelait à qui l'oublierait que le piano est un instrument à percussion. Mais à écouter les sonates que John Cage a pensées pour ce que depuis on appelle le piano préparé, il est possible d'y trouver les germes de la musique aléatoire que le compositeur a justement composée à développer dans les années qui ont suivi. Et en tirant les fils et en enfonçant les clous et les gommes de l'histoire de la préparation, nous pourrions prêter l'oreille aux jeux harmoniques produits par le dépôt de tel objet à telle distance de l'étouffoir sur telle corde. Ces jeux trouvent des prolongations au XXIe siècle dans la musique du compositeur Nicolas Mondon, qui sera l'invité de la première partie de cette émission. Car d'ici 35-40 minutes pour la seconde partie, nous avons convoqué deux pianofortistes, Luca Montebugnoli et Eloy Orzaïs, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, pour qu'ils nous expliquent à même un instrument à janissaire à quoi servaient les différentes pédales que les pianofortés du tout début du XIXe siècle avaient pour transformer les effets sonores et modifier le son des cordes, en anticipant de plus d'un siècle ce que, depuis John Cage, nous appelons le piano préparé. C'était Margaret Langton qui interprétait un extrait des Bacchanales de John Cage. Bonjour Nicolas Mondon.
Bonjour.
On dit que cette œuvre de 1938 est une espèce de point d'inauguration de l'aventure de John Cage avec le piano préparé. Là, on n'avait pas du tout mis avant des petits objets dans les cordes du piano.
Alors déjà, il y a une question sur la date.
Ouais.
Parce que 38, c'est Cage qui dit qu'il l'a écrit en 38. Il dit aussi qu'il a écrit la pièce en 3 jours.
Ce qui trouble l'attribution.
Et surtout que la création est censée avoir lieu en 1940.
Mmh.
Et donc, ça fait un petit différentiel. Et
c'est bizarre d'attendre 2 ans pour jouer une partition qu'on a écrite en 3 jours, c'est ça ?
En 3 jours, oui, c'est ça. Et que, début 1940, il y a Second Construction et... qui est une pièce pour percussion dans laquelle il y a un piano où il y a une vis entre les cordes, et donc il y a une corde préparée,
ouais.
Et puis il avait essayé, sans doute il était accompagnateur à la Cornish School, donc en s'inspirant de percussions, et sans doute il avait mis des objets dans le piano, enfin il y avait de l'expérimentation dans l'air auparavant, mais qui n'était pas noté, donc on ne sait pas très bien si... Le processus qu'il raconte, c'était quelque chose qui correspond vraiment à ce moment-là, ou si c'était dans l'air auparavant.
Oui, c'est toujours comme ça, quand on cherche un point de départ, il y a toujours 2-3 concurrents.
Exactement.
Autour.
Exactement. D'autant qu'il a raconté cette anecdote-là des décennies plus tard, en fait.
Et avec des variations, comme toujours, chez lui, non ?
Et avec quelques variations, mais sans doute aussi avec... tout simplement la possibilité qu'il se souvenait plus très bien, enfin qu'il ait amalgamé des choses,
oui.
Que c'était pas forcément malhonnête, même s'il est toujours malicieux, mais tout simplement il y a vraiment, je sais plus exactement de quand est-ce qu'il a raconté ça, mais il y a vraiment 20, 30 ou 40 ans plus tard, quoi.
Donc, alors au-delà de ce que lui peut bien raconter, il y a ce que vous entendez dans ce qu'il fait quand il fait ça, c'est-à-dire utiliser le piano comme un instrument de percussion et surtout annuler la tonie des notes.
Alors ça dépend des préparations,
ouais.
Parce qu'en fait les préparations ont des effets différents, mais ce qui est certain c'est qu'en tout cas la préparation du piano arrive à la suite d'un moment où il compose pour ensemble de percussions. Et donc c'est vraiment cette idée qui est une idée de Cowell au départ, mais qui est l'idée de reproduire un ensemble de percussions avec un seul instrumentiste. Et là, en l'occurrence, donc il a pensé au piano, c'est l'apport de Cage, de transformer le piano dans ce multi-instrumentiste qui aurait une palette de percussions sous les doigts. Et donc, selon le type d'objet, et puis comment est-ce qu'on les place, et puis l'organologie du piano, qui pour certaines touches a trois cordes, pour d'autres deux, et donc ça change le fait qu'ils maintiennent un son tonique en plus d'un son bruité issu de la préparation, ou qui est que du bruit, ça va changer d'une touche à l'autre, d'une préparation d'une note à l'autre. Et donc, selon les pièces, il y a des pièces où il y a presque plus de notes, mais en fait, il y en a assez peu. Donc, que des bruits ou des cloches inharmoniques. Et puis, beaucoup de pièces où, en fait, les sonorités sont mixées. C'est-à-dire, on va avoir un peu de la hauteur d'origine de la touche.
Et beaucoup de l'attaque.
Et... ouais, d'une attaque fortement bruitée en plus.
Parce qu'on pourrait dire qu'il maintient la référence à la note sur la partition simplement pour indiquer la touche qui va générer tel ou tel son et que son obsession serait davantage rythmique sans préoccupation harmonique. Ça a été votre premier soupçon ?
Alors, en tout cas, les partitions sont des tablatures. C'est-à-dire qu'il abandonne complètement l'idée que la partition reflète au moins en partie ce qu'on entend. Mmh. C'est vraiment des histoires de doigté, en fait. Ça se voit particulièrement dans les quelques pièces où, justement, il n'y a plus de son, de tonique, où les cordes sont complètement préparées et on n'a que des timbres sous les doigts. Pour varier les réseaux de timbres, les sortes de chimes de synthèse, on pourrait dire, ce qui se présente sous les doigts du pianiste, ce sont des gammes chromatiques, des gammes diatoniques, des arpèges, des gammes pentatoniques, une main sur les touches noires, l'autre sur les touches blanches, des trucs de pianiste, des trucs qu'on a sous les doigts,
ah oui,
qui sonnent plus du tout comme ça,
ouais.
Qui sonnent pour faire des compositions
de timbres. Oui, il y a
encore
une pensée de la gamme dans les doigtés, là où il n'y en a plus dans le résultat sonore.
Bah, c'est vraiment de la tablature.
Ouais,
il a composé beaucoup de ses pièces en les improvisant au départ, enfin, en tout cas avec des improvisations, en les cherchant au piano.
Ouais.
Et Cage est quand même pianiste à la base, et il a tout un tas de répertoires de formules dans les doigts, d'empreintes. Et en fait, il réorganise ses timbres avec les empreintes pour que ce soit pratique à jouer.
Alors, il réorganise les timbres, ça veut dire qu'il fait quand même attention de là où il va chercher des sons non toniques et de là où il va maintenir une certaine hauteur. C'est pas juste pour donner un son bastringue à son piano, c'est beaucoup moins désinvolte que ça à son geste.
Ah oui, c'est une quête de timbre inharmonique. Bah, qui là est le prolongement de ses pièces de percussion où il pouvait passer beaucoup de temps à chercher des instruments avec des timbres rares, riches. Il écrivait,
ouais,
peut-être juste instrument en métal. Lui, il pouvait passer plusieurs jours à trouver le bon instrument en métal.
Peut-être qu'on peut peut-être expliquer un tout petit peu scientifiquement déjà qu'est-ce qu'un timbre inharmonique et en quoi mettre une gomme sur une corde fait que le son qui en ressort devient donc inharmonique.
Alors, déjà, il faut partir de ce qu'on appelle un son tonique. C'est donc, du coup, c'est
un son qui a un ton.
Un son qui a un ton, qu'on peut en gros chanter et donner un nom de note. C'est en fait plein de fréquences qui sont organisées entre elles d'une manière géométrique. C'est une suite géométrique. Et inharmonique, c'est en gros que le son, il est toujours composé de plein de fréquences, mais c'est le bazar.
D'accord.
Dans la répartition des fréquences. Quand c'est vraiment le chaos total, on va dire que c'est un bruit. Alors le son inharmonique, c'est un peu comme une cloche. On ne sait pas trop s'il y a une note dedans, il y en a peut-être plusieurs, le timbre est pas clair, mais c'est pas comme une porte qui claque.
Ouais.
Et puis au bout de ce spectre-là, il y a la porte qui claque, le bruit pur, quoi. Donc
on est dans une hybridation.
Alors le piano traditionnel, il est complètement du côté de la note, et le piano préparé, il va mélanger la note, l'inharmonique, le bruité, soit par combinaison, soit même dans une même préparation. Et donc la deuxième question, c'était comment est-ce que la gomme fait ça ? Alors la gomme ou
alors,
la
comment
vis
est-ce que,
ou,
c'est ça, elle le fait plus que la vis ou plus ou moins que le boulon, et que justement la gamme des objets qui va être utilisée va être réactive à ce que l'on cherche là, sur ce à quel curseur on met dans l'inharmonisation de tel ou tel son alors ?
Alors ça va dépendre du matériau, il utilise des matériaux en métal, vis, boulon, la différence étant que les vis ont une forme conique là où les vis de boulon ont un diamètre constant, ça fait un timbre très différent. Des pièces de monnaie, par exemple.
Que des objets métalliques ?
Alors ça, c'est pour les objets métalliques. Il peut y avoir donc aussi des gommes. Il utilise du joint de fenêtre aussi, qui s'apparente à du tissu. Il peut y avoir du bois, également. Donc, ces matières vont créer des sonorités différentes. En gros, l'acoustique des préparations n'est pas parfaitement analysée et comprise, mais en gros, ça vient ajouter une masse d'une manière très hétérogène sur une corde pour qu'elle fasse un joli son. Il faut que la corde soit très homogène, toujours du même diamètre et fine. Donc là, si elle devient très lourde avec une grosse masse à un endroit donné, ça vibre... on pourrait dire de manière très désordonnée et donc ouais. Inharmonique.
Parce que Gérard Frémy a voulu un peu fixer les préparations de Cage en cherchant les types d'objets qu'il avait utilisés, mais aussi l'emplacement précis où les objets étaient disposés sur les cordes, qui a permis de montrer qu'il y avait une espèce de recherche de cohérence harmonique de la part de Cage qui était assez à pousser. Donc.
Alors Cage, dans ses tables de préparation, puisque donc dans ses partitions, les partitions sont écrites d'une manière traditionnelle, mais on peut dire qu'il y a une sorte de préface où il dit comment préparer le piano. Il est souvent assez précis, bon, l'écriture des tables évolue dans le temps, mais si on résume, souvent il dit quel type d'objet il faut mettre sur une corde et à quelle distance. Le truc, c'est que d'un piano à l'autre, la même corde n'a pas la même longueur, donc en fait, cette distance n'a pas la même valeur, produit pas le même résultat. Et puis, qu'est-ce qu'une vis longue ? Qu'est-ce qu'une vis de cuisinière ? Ou un morceau de bois. On voit bien que la taille du morceau de bois, ça va beaucoup changer. On peut imaginer assez facilement. Puis ensuite, il suffit d'essayer. On voit très bien que le résultat sonore peut être très, très différent selon la longueur et l'épaisseur du bout de bois. Donc en fait, ce qu'a fait Frémy, c'est d'aller voir Cage en lui disant « Est-ce que tu as encore ton matériel de préparation sur lequel tu as composé les sonates et interlunes ? Est-ce que ça serait et le même piano ? Ça serait possible de repréparer le piano et de voir exactement quelles sont les sonorités que ça fait et de noter du coup les fois où ça faisait sortir des sons. Parce que l'inharmonicité, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de comme dans une cloche, de pas forcément savoir s'il y a un son ou plusieurs. Ça va dépendre de la façon dont on frappe l'objet, mais aussi de la manière dont on l'écoute. Un même enregistrement de cloche, on peut entendre plus une note ou plus une autre en changeant notre manière d'écouter uniquement. Quand on met une vis, c'est ça qui peut se produire. En fait, il se crée un agrégat de notes, de fréquences additionnelles à la fréquence d'origine produite par la corde quand elle n'est pas préparée. Et puis, on peut essayer de les noter. Et donc, c'est ce qu'il a fait pour essayer de noter le résultat sonore. Parce que là où Cage est plus ou moins précis selon les pièces sur comment préparer le piano, jamais il dit ce qu'il veut entendre. Enfin, très rarement.
Ouais.
Et parfois, il donne une légère intention. Par exemple, dans une pièce qui s'appelle Amores, qui est une pièce qui alterne des pièces pour ensemble de percussions et pour piano préparé. Mais ils ne se mélangent pas, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Il dit par exemple qu'il ne faut pas que les objets bougent et qu'on entende la vibration de la vis. Donc il faut bien ajuster l'objet à l'écartement des cordes
Ah oui,
pour
pour qu'on
avoir.
n'entende que le tintement de la corde et surtout pas l'objet qui. Ouais.
Voilà, pour qu'on entende une richesse harmonique et pas un zingage en fait.
Preuve donc que la préparation est un geste de composition. La pianiste-compositrice, improvisatrice, on peut dire préparatrice, Eve Risser, à l'occasion d'un album dont voici un fragment, se signait comme à la fois l'interprète, la compositrice et effectivement celle qui avait fait la préparation de son piano. Risser, qui a donc interprété, composé, préparé, mais pas complètement tout fait à ce que nous avons entendu, puisque la prise de son n'est pas pour rien dans le résultat sonore, et il faut donc saluer le travail de Adrian Bourg. Nicolas Mondon, le mot préparé, il n'a pas été d'office le mot employé?
Si, ça a été tout de suite.
Parce que vous me disiez que les préparations s'appelaient d'abord les mutes.
Oui, mais en fait, dans les tables de préparation, il n'appelle pas ça des préparations. D'ailleurs, c'est même peut-être un truc qu'on dit en français.
Ah oui, c'est des préparations qui ne sont pas appelées préparées,
Ouais,
préparation tout de suite, mais.
le piano est appelé prepared piano tout de suite.
Tout de suite, ouais.
Ça, c'est le côté pragmatique de Cage. Il dit que,
Et pourquoi il prend ce mot-là?
eh ben, parce que c'est un piano où pour jouer la musique, il faut commencer par avoir une action sur l'instrument avant de pouvoir jouer.
D'accord.
Donc, il faut préparer l'instrument pour qu'il soit apte à être joué pour faire la musique qu'il a écrite. Et après, la partition se présente normalement et on joue le piano normalement. Mais effectivement, les préparations ont un effet sur le assourdi, le piano, et donc c'est pour ça qu'il les a appelés mute au départ.
Alors, il n'a pas été le premier à toucher aux cordes du piano. On peut penser à Satie qui avait mis des petits bouts de papier entre les cordes pour le piège de Méduse.
Ouais, Satie, alors là c'était dans le sens, bah déjà, une sorte de préparation, en
Ouais.
fait, hein, c'est une préparation basique avec une feuille de papier, qui est quelque part dans la continuité de ce qui pouvait se passer au 19e, hein, où il y avait sur certains pianos
Alors,
des jeux
ce
avec du
qu'on appelle
papier.
par exemple le jeu de basson où on
Voilà.
dépose du feutre sur la.
Alors
Et
je crois
puis.
que le jeu de basson, c'était du papier, je
D'accord,
crois.
ouais. Ça, c'était le début du 19e siècle. Hein.
Et alors, je ne sais pas exactement quand dans le 19e siècle, mais de première moitié, oui.
Ouais.
Et c'était un moment d'expérimentation. Et bah, en fait, à l'image du jeu de lutte du clavecin, hein, c'est vraiment la même pensée.
Et puis, il y a donc quelqu'un dont Cage est l'assistant dont vous avez dit un mot tout à l'heure, c'est Henry Cowell, qui fait tout un tas d'expérimentations à bruiter un peu le son du piano.
Alors lui, c'est quelqu'un qui a un problème avec la convention. Et donc,
Donc c'est d'abord politique son problème, ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment politique parce que c'était un problème qu'il avait tout enfant. Ça l'amusait beaucoup d'aller dans la bonne société américaine jouer du piano chez les dames qui proposaient du thé au goûter et bah, de faire ce qu'on a appelé des clusters après, d'aller jouer avec les avant-bras sur le piano, d'aller chercher toutes les sortes de bruits qu'on pouvait faire avec l'instrument, de démonter l'instrument, d'aller voir comment c'était dedans. En fait, c'est aussi une curiosité vraiment enfantine de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et quand on ouvre la boîte du piano, on voit qu'il y a des cordes dedans, et les cordes, elles font quel son? Pourquoi est-ce qu'on jouerait que sur le clavier? En fait, le clavier, on voit pas le son. Le son, il est fait par les cordes, bah allons taper dedans, tiens, ça fait quoi? On peut glisser, du coup, voilà. Donc il y a la fameuse pièce qui s'appelle Harpe éolienne,
Qui
où
date de 1915, je crois. Ouais.
je crois, en tout cas, c'est ouais, à peu près l'idée, début du XXe siècle, et où il glisse dans les cordes, alors il prend l'analogie avec la harpe, même, bah, effectivement, alors là, dans l'écriture, on s'en sert comme d'une harpe, ça peut pas. Parfois, le geste peut faire qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est une harpe,
Mais le titre dit harpe éolienne, ça veut dire que ce serait une harpe qu'on n'a pas besoin de toucher pour qu'elle vibre, mais.
Ouais, c'est quand même une harpe un peu
Ouais.
spéciale. Oui. Il y a une part comme ça de rêve un peu fantasy
Oui.
chez Cowell. Powell aussi dans des pièces, dans ses effets. En fait, il y a comme ça peut-être une espèce de monde un peu parallèle de l'imagination fantaisiste. Et The Banshee, c'est un peu la même idée, qui est une pièce où il joue sur enfin, c'est une pièce où il y a deux personnes pour jouer du piano, quelqu'un qui tient la pédale, elle se joue entièrement dans les cordes, alors là, en grattant le long des cordes, pas seulement en glissant pour faire des sons comme d'une harpe, mais dans le grave, il y a un filetage, c'est-à-dire en fait une autre corde qui est enroulée sur la corde et qu'on peut gratter et ça fait des grincements. Quand on va très vite, il peut y avoir des sortes de hurlements de la corde, c'est la vibration longitudinale qui est de la corde, parce qu'une corde, ça vibre dans tous les sens, mais quand c'est un piano qui la frappe, ça vibre dans un sens principalement, mais on peut aller, on peut la frotter, il la joue avec un dé à coudre, il y a plein de modes de jeu différents, il y a une vraie exploration, ça devient un terrain de jeu, c'est pas un lieu où on apprend à jouer correctement du piano, hein. C'est l'objet piano devient un lieu d'exploration pour toutes sortes de sonorités fantaisistes.
Et c'est lui aussi qui invente le cluster ?
Oui, alors je ne sais pas si on peut parler d'invention vraiment, mais c'est le premier à dire ceci est une sonorité qui a droit de cité en musique. C'est pareil, il y a une part de jeu, cluster en fait c'est des notes qui se touchent. Hein. Et du coup ça fait des agglomérats de sonorités. Et alors c'est une certaine vision de l'accord, hein. Je pense dès la fin du 19e, hein, il commence à faire ça, il ne fait pas des pièces tout de suite, mais il essaye ça, il essaye l'effet justement sur la bonne société américaine, de voir qu'est-ce que ça fait plutôt que de jouer un accord parfait, de jouer un gros agrégat de...
Donc c'est sans doute effectivement dans l'horizon des préoccupations de Cowell que Cage s'inscrit quand il commence à faire ses recherches qui aboutissent au bacchanal par lesquelles on a commencé l'émission. Et Cage, on pourrait dire, aboutit au début des années 50 à la musique aléatoire par cette voie-là, par la préparation du piano.
Alors ça, il ne le dit pas directement, ouais. On peut le deviner. Disons qu'en fait, Cage, il s'est aperçu au fil des pièces, qui en gros, les pièces pour piano préparé, il les a écrites dans les années 40, si on simplifie.
De 38 à 48, ce serait
En gros, ouais. Voilà. C'est lié à la Seconde Guerre mondiale, sans doute aussi pour des raisons matérielles. Mais en tout cas, il s'est aperçu petit à petit que ce qui était au départ son instrument qu'il préparait, où il pensait que la sonorité était fixe, en fait, quand on change de piano, de modèle de piano, de vis, d'interprète, qu'on ne sait pas quelle idée du son on veut avoir en préparant, la table de préparation, elle a beau dire qu'il faut mettre tel type d'objet à telle distance dans les cordes, le son, il peut être très différent. Et donc ça, on s'en rend compte parce que, par exemple, il y a une pièce où il dit sur quel piano il a préparé, est valable à table de préparation. Donc il se rend compte des limites de sa notation et de la programmation du timbre. Il fait une musique de timbre, mais finalement, la programmation du timbre, elle est limitée. Et au lieu de se dire, je vais préciser la programmation du timbre de mes pièces, il se dit que finalement, ça fait partie de la nature de ces pièces de timbre que d'avoir un timbre variable, incertain, en partie imprévisible. Et donc, il y a une pensée de l'aléatoire qui naît là. Il dit à un moment donné, mais après ces expériences à la fin de la décennie 40, qu'on prépare un piano comme on ramasse des coquillages sur la plage.
Donc oui, il y a quand même cette idée de... Oui, d'aléa.
Et c'est ça.
Oui. Entre les deux, c'est-à-dire entre 48 et l'invention de l'aléatoire Music of Changes 1952, il y a une pièce de 1950 qui est une série de mélodies pour violon et piano dans lesquelles le violon va suivre précisément les courbures harmoniques générées par la préparation du piano, on pourrait le dire comme ça.
Alors, en fait, on pourrait dire... plus exactement que la préparation du piano avec ce qu'elle induit d'une certaine fixité harmonique, c'est-à-dire quand on a une touche qui est préparée, qu'on entend la note plus le résultat de la préparation, donc en gros on va entendre une note plus une sorte de cloche de synthèse, donc pour une touche, à chaque fois qu'on va jouer cette touche, il y aura toujours cette mixité. cette hybridité de timbre qui va être fixe. Et Cage l'entend comme une sorte d'harmonisation de la note par le bruit qui serait toujours la même. C'est-à-dire quand on a dans cette mélodie cette note, elle va toujours être accompagnée par cette sonorité. Et ça, c'est quelque chose qui va déployer aux autres instruments, qui va synthétiser, on pourrait dire figurer, et en faire une sorte de système. Cage a toujours eu un petit peu un problème avec le système harmonique. Il a pris des cours avec Schoenberg qui
ont couru court.
Ouais, c'est ça. Enfin, Cage était un peu désespéré par l'oreille harmonique de Cage, et Cage a compris là que c'était pas son univers, qu'il cherchait autre chose. Et donc, dans ses pièces pour violon et piano, une même note de violon est toujours accompagnée par le même accord de piano, de manière systématique. Et le violon ne peut pas jouer cette note sans que le piano joue cet accord.
Oui, c'est le violoniste Peter Zasowski et le pianiste Rodney Lister dans une de ses 6 mélodies. Des 6 mélodies pour violon et piano de John Cage de 1950, où il y a donc cette espèce de rencontre entre une mélodie produite au violon à partir des sons qui émergent de l'inharmonicité produite par le piano préparé. C'est exactement à cet endroit-là que le piano préparé vous intéresse, vous, Nicolas Mondan, en tant que compositeur?
Alors, moi, le piano préparé m'a intéressé pour changer son timbre, mais en le préparant autrement que Cage, pour faire émerger des hauteurs, créer des sortes de diphonies, vraiment des cloches, mais dont on puisse savoir très précisément quel va être le résultat en termes de notes. Même si c'est du coup des notes qui sont pas tempérées, c'est-à-dire qui sont parfois entre le son que font les touches du piano. C'est plus petit que le demi-ton. Parfois très subtils, ça crée des battements, etc. Mais on peut les définir très précisément et les reproduire. Du coup, ça, il y a des sortes de forces harmoniques qui se dégagent de ça, puisque effectivement, il y a des notes qui vont forcément être liées à une autre, qui vont pas pouvoir être émises sans une autre note, et même sans que forcément on puisse vraiment les distinguer. C'est-à-dire, il y a un jeu comme ça entre de fusion ou de distinction qui parfois est liée simplement à l'écoute, à notre mode d'écoute.
Est-ce qu'on pourrait parler alors de la préparation comme d'un ouvroir spectral?
Alors, en tout cas, moi, je l'utilise de façon à recréer des timbres par de l'harmonie, ce qui est une...
C'est-à-dire d'inciter le piano à être multiphonique, en fait.
De l'obliger
De l'obliger carrément.
De l'obliger à être multiphonique, puisqu'en fait, une fois qu'on a préparé une touche de manière à ce qu'elle produise une harmonique en plus de sa fondamentale qui va être un petit peu transformée, on ne peut pas lui demander de plus produire cette harmonique. Et donc effectivement, il y a une sorte d'obligation à être multiphonique, à transformer toutes les touches préparées en mini-cloche, on pourrait dire.
Mais alors, tous les matériaux de préparation ne sont pas égaux par rapport à ce type de résultat. C'est-à-dire, enfin, est-ce qu'une plate à fixe, par exemple, ça n'assourdit pas plus que ça ne multiphonise ?
Alors, ça dépend comment on l'utilise. Oui. Moi, je prépare effectivement le piano quasiment uniquement avec de la pâte à fixe parce que ça me permet d'être très précis dans l'endroit, dans la place de ce qui est capital pour savoir quelle note va émerger de la préparation.
Oui.
Et aussi parce que l'objet a une masse très homogène, ce qui fait que du coup, ça, il vient pas se créer des phénomènes très compliqués. Dans une vis, la forme est compliquée, le poids est énorme par rapport à la corde, donc ça crée des phénomènes très complexes.
Donc, c'est, par exemple,
la pâte à fixe, c'est beaucoup plus simple.
Sur vos partitions, on peut trouver à la corde du La numéro 3, il faut mettre une pâte à fixe de telle épaisseur à tant de millimètres du marteau ou...
Alors, non. Moi, mes tables de préparation se présentent à l'inverse de celles de Cage. Je ne dis pas comment faire, je dis ce que je veux entendre.
D'accord.
Et donc, les tables, elles se présentent en disant sur cette touche, il faut mettre une boule de pâte à fixe au nœud harmonique qui permet d'entendre telle harmonique et de
la
noter sous forme de note.
Donc, il faut être accordeur pour pouvoir préparer
vos
pianos.
il faut aller mettre les doigts sur la corde, chercher où se trouve l'harmonique,
ouais.
Mettre la boule de pâte à fixe à cet endroit-là, écouter le résultat, entendre qu'on a et la fondamentale et cette harmonique, que la fondamentale a un peu baissé, et je dis de combien je veux que la fondamentale ait baissé. Et là, c'est avec la quantité de pâte à fixe qu'on met qu'on va ajuster la justesse de la fondamentale.
Et alors, la musique que vous allez composer pour les autres instruments qui vont jouer avec le piano préparé de telle sorte va tirer son régime de hauteur directement des fréquences qui sont émises par ces multiphonies ?
Alors oui, et en fait, il y a un lien direct qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que mon idée, c'est de créer des sortes d'unissons par le timbre, c'est-à-dire que les instruments vont jouer les mêmes hauteurs, donc des consonances par le timbre. Il y a des harmonies qui sont complexes, mais qui vont sonner comme des sortes de consonances parce que elles seront le résultat d'un timbre fusionné. Dans une cloche, on n'a pas l'impression d'entendre une dissonance, même si on analyse les notes qu'il y a dedans, elles vont peut-être pas être organisé de manière harmonique, mais le fait que le timbre apparaisse comme cohérent donne une impression de consonance. Donc la préparation, c'est la même chose. Et si les notes qui constituent la préparation sont jouées à l'unisson exact, donc parfois très faux, par les autres instruments, eh ben ça va donner une impression de consonance. On va avoir l'impression que les instruments jouent vraiment ensemble.
Ça veut dire de choisir les instruments justement en fonction.
Alors, il faut qu'ils puissent jouer les mêmes hauteurs. Donc soit par exemple avec les cordes, c'est tout à fait possible en décalant un tout petit peu les doigts pour que la note soit la même que celle qui est jouée par le piano préparé. Parfois, je fais aussi l'inverse, c'est-à-dire que je vais préparer le piano de manière à ce qu'il... la préparation soit à l'unisson de phénomènes instables des instruments, par exemple d'un multiphonique de flûte ou d'un multiphonique de saxophone, de manière à ce que le piano puisse jouer à l'unisson de ces sonorités complexes. Et donc du coup, c'est à partir d'un multiphonique de saxophone, j'accorde le piano de manière à ce qu'il puisse faire les mêmes hauteurs, et je vais demander aux cordes de jouer les mêmes sons que le piano, et donc du saxophone. Et ça crée un complexe d'harmonie timbre, et en ce sens c'est spectral, c'est-à-dire un endroit qui hésite entre un accord et un timbre.
C'est donc exactement ce que vous avez fait dans une pièce qui s'appelle I'd Prefer to Try Eternity, par exemple.
Par exemple.
Voici ce que ça donne.
Thank you.
Un extrait d'Eternity Try du cycle I'd Prefer to Try Eternity, interprété par l'ensemble Ascolta, dirigé par Michael Vandenberg. Une pièce Nicolas Mondon où donc on entend ce rapport timbre-échelle qui vous est venu d'un autre instrument que le piano préparé, qui est le gamelan.
Alors ça m'est pas venu du gamelan.
C'est votre musique qui vous avait fait aimer le gamelan, on pourrait le dire plutôt dans ce sens-là.
Plutôt, qui m'a fait m'intéresser au gamelan. Gamelan javanais que j'ai pratiqué à l'atelier de la Cité de la Musique à Paris pendant plusieurs années. Et oui, qui a été où les timbres sont inharmoniques, mais pour créer à partir de mélodies de la polyphonie très complexe. Parce que toute la musique en Occident, et pas que d'ailleurs, est beaucoup centrée justement sur les timbres toniques. Donc sur le fait que les notes soient portées avec des timbres très purs. Et moi, je voulais inverser cette chose-là. Et c'est ce que fait le gamelan, en fait. C'est le seul modèle, on pourrait dire, d'une musique traditionnelle qui part un peu du même postulat. Même si c'est pour faire complètement autre chose. Mais du coup, j'ai voulu aller voir comment ça fonctionnait.
Donc ça veut dire que votre exploration du gamelan a été une espèce de prolongation de votre approfondissement du piano préparé ?
Oui, c'est arrivé en fait après le système que j'ai mis en place au piano préparé. Et ça a plutôt proposé des voies différentes d'utilisation. De me dire à partir de là, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Aussi et de prendre du recul aussi sur la situation. Parce que sinon j'étais... On a toujours besoin d'un horizon et puis de l'endroit où on est et d'avoir cet espace, cet écart, de pas être complètement dans la surface présente, on va dire.
Oui, mais ce qui fait qu'on peut presque dire que oui, votre pensée du piano préparé est là, en fait la prolongation de votre pensée de compositeur.
Ah oui, c'est la prolongation ou la matrice. Enfin, je l'ai trouvé dans cette manière de faire. Tout d'un coup, ma pensée de compositeur a trouvé son espace.
C'est ça. Et c'est cette même pensée aussi qui va donner des chemins de prolongation au piano préparé un peu inattendus. Bah, donc le gamelan, on vient de le citer. Mais par exemple, pour vous, Tabula Rasa d'Arvo Pärt, c'est une sorte d'écho au travail de Kelch sur le piano préparé ?
Alors écho, je sais pas. En tout cas, il utilise un piano préparé dans cette pièce, avec une pensée de transformer le piano en percussion. C'est une sorte de cloche. Moi, j'entends plutôt une évocation des cloches qui sont si importantes.
Une sorte de mini carillon, quoi.
Une sorte de mini carillon, voilà, exactement. Qu'il était plus simple de faire avec un piano préparé qu'avec un jeu de cloche, sans doute pour des questions matérielles, mais peut-être aussi simplement d'intégration avec l'orchestre à cordes, de mélange, et puis de liberté dans les notes, parce que du coup, en fait, on est très libre avec un piano préparé. Les pianos, il y en a quand même à beaucoup d'endroits, et puis ensuite, il suffit d'avoir quelques vis et quelques crayons, et on s'arrange.
Yoris Aris, bonjour.
Bonjour.
Luca Montebugnoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux pianofortistes. C'est-à-dire que vous êtes confronté à des instruments qui, on pourrait presque dire, sont pré-préparés. C'est-à-dire qu'ils ont des mécanismes pour actionner les cordes d'une telle façon que l'harmonique n'est plus la même.
C'est une belle façon de l'exprimer, bien sûr. Oui, disons que ce genre de piano, ce modèle, nous offre des artifices, des moyens différents et parfois très inventifs pour rendre et obtenir des sonorités qui ne sont pas très idiomatiques du pianoforte, du piano.
Alors, on est là, salle 232 du CNSM de Paris, où il y a un instrument de cette espèce, qui est une reproduction, c'est ça?
Oui, c'était une copie moderne, faite par Chris Mann, qui est un facteur belge, d'un piano à 6 octaves viennois des années 20, à peu près.
1825,
c'est difficile à dire, mais dans les années 20.
Alors, on va essentiellement parler de ces attributs qui donc transforment le son, que l'on pourrait qualifier de pré-préparation en référence à Cage, mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est la durée de vie de ces accessoires qu'on va faire sonner. Ça commence quand?
C'est difficile à dire, en fait, on ne sait pas trop. C'est parce que ça commence probablement à la toute fin du XVIIIe siècle.
Ouais.
Les premiers exemples, les premières notices qu'on a, par exemple dans les journaux, datent de la toute fin du XVIIIe siècle. Et après, ça se développe beaucoup au cours du premier tiers du siècle, surtout. Première moitié, mais plutôt le premier tiers du siècle, surtout dans les pays allemands et autrichiens. Donc,
oui, c'est-à-dire que là, vous vous dites c'est une copie d'un modèle de 1820, mais donc c'est des choses qui ne vont pas rester très très longtemps.
Non,
qui a équipé les pianos.
Parce que c'est quelque chose qui s'estompe au fur et à mesure, petit à petit, au cours du siècle, et déjà dans les années 40, je pense que c'est assez rare, en fait.
Alors, Eloy, vous, quand vous enregistrez le disque La Contemplation, quand vous interprétez par exemple une Klavierstück Deutsch 946 de Schubert, eh bien, vous utilisez par exemple le modérateur. C'est quoi?
Alors, le modérateur, c'est une pédale ici, on le trouve, c'est la pédale centrale dans ce genre de modèle viennois de l'époque des années 20. Et donc, le modérateur. Pour qu'on comprenne mieux, je pense que c'est une sorte de sourdine de l'époque où un tissu ou deux feutres ont le contact entre le marteau et les cordes, et cela rend une sonorité un peu plus envoilée, pas si claire, pas si nette. Voilà. Il faut dire aussi dans ce sens-là que le piano viennois nous montre, les pianos historiques qu'on a aujourd'hui, nous montre avec ce genre de pédales, et pas que avec le modérateur, un goût prononcé par les sonorités et les nuances piano, pianissimo. Une variété de couleurs dans les nuances plutôt intimes, qui, bien sûr, gardent une relation forte, un lien fort avec le répertoire de salon de l'époque.
C'est-à-dire qu'à défaut de puissance sonore, on a une variété de couleurs.
C'est pas, alors, on peut, bien sûr, ce piano-là, et on le verra peut-être plus tard, sont aussi capables de rendre des sonorités très, très fortes et puissantes. Mais cela dit, avec le modérateur, l'Una Corda, qui est aussi une pédale qui permet de déplacer la mécanique du piano, et donc que chaque marteau ne frappe toutes les trois cordes, de cette façon-là aussi, on a une sonorité un peu plus piano, un peu plus céleste. Donc voilà, tout cela, à mon avis, nous montre qu'à l'époque, à Vienne, il y avait un goût pour la variété dans les sonorités piano et intime.
Donc ça veut dire que ça permet de faire supporter aussi une répétition du texte, parce que précisément, vous, quand vous le jouez dans Schubert, vous avez une première fois le piano sans pédale et puis une deuxième fois avec le modérateur.
Oui, bon, c'est vrai que comment dire, après, chaque interprète fait des choix. Disons qu'il y a des sources, mais malheureusement, on n'a pas trop de sources historiques ou de textes où les indications de pédales et ce genre de registres sont indiquées très précisément. Donc c'est à nous, c'est aux interprètes d'un peu recréer une interprétation et de décider là où l'utilisation de ces registres pourrait fonctionner. Voilà.
Thank you. Après cet extrait de Klavierstück Deutsch 946 où on entend donc l'utilisation du modérateur, Luca Montebugnelli, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que ce piano a 5 pédales alors que les pianos que l'on connaît aujourd'hui en ont que 3?
Bah parce qu'en fait, le piano, à son origine, était, comme on l'a dit tout à l'heure, un instrument qui produisait des sons multiples, en fait. Là, le son du piano tel qu'il a évolué au fil du temps, au 19e siècle et au 20e siècle, c'est un son finalement très identifié, très clair, très précis, avec des caractéristiques très unitaires, tandis que au début, le piano était plutôt un instrument qui pouvait produire plusieurs sons différents. Et donc ça, non seulement par l'habilité du pianiste, par les doigts du pianiste, mais aussi par des moyens mécaniques comme actionnés par les pédales. Et donc c'est pour ça qu'on a souvent 5, 6, 7 pédales ou plus même, pour justement varier le son par des moyens mécaniques.
Alors, on parlait tout à l'heure avec Nicolas Mondon du jeu de basson. Ouais. C'est quoi le jeu de basson ?
Alors, le jeu de basson, c'est un autre jeu possible activé par une pédale.
C'est laquelle de pédale ?
Ici, c'est la deuxième, je pense.
Dans ce modèle-là, oui.
Dans ce modèle, c'est la deuxième, mais par exemple, pour des pianos français, c'est la quatrième. Donc, bon, le placement des pédales, des registres peut varier. Le basson, c'est un petit rouleau de parchemin, souvent, qui se pose sur les cordes et donc qui frotte au contact avec les cordes. Et donc, enfin, un son très... voilà, on l'appelle basson, fagotte, mais les bassonistes, on n'aime pas ce type d'appellation parce que c'est
ils
un peu rigolo,
pas.
Quoi, exactement. C'est fait un espèce... Voilà.
Donc ça fait
un bzz, 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 oui. Un truc comme ça. Et donc, voilà, on peut l'utiliser de temps en temps pour faire des effets un peu étonnants, parfois.
Ouais, donc, ce qui fait que quand Satie met des sortes de petites feuilles de papier dans les cordes, en fait, il veut reproduire sur un piano de début 20e le
alors,
son
de basson.
Je ne
sais pas basson. Si Satie était au courant, conscient qu'il reproduisait quelque chose qui existait, peut-être oui. Mais de toute manière, ces expériences-là étaient très, très courantes. Oui. À cette époque, oui, dans un certain sens, elles sont déjà réduites, en fait. Elles sont cristallisées en quelques pédales, mais... Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a des pianos qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas retrouvé, mais des instruments qui produisent 250 sons possibles, plus encore, donc des combinaisons, et donc tout un tas de sonorités qu'on a complètement perdues.
Et vous avez fait un disque pasticcio dans lequel il y a une pièce qui utilise le son de basson.
En fait, la pièce ne l'utilise pas, mais nous, on a décidé de l'utiliser, comme disait là tout à l'heure. En fait, on n'a pas ces indications de pédalisation. C'est laissé à l'esprit, à l'inventivité du pianiste. Et donc ça, c'était un concerto de Vienne qu'on a arrangé pour piano et flûte, un concerto pour flûte.
Oui, c'était un flûtiste, ce compositeur.
Exactement.
Oui.
Et donc, à un moment de tutti, j'ai décidé, OK, on met le basson pour faire justement ce tutti qui intervient. En plus, c'est un do mineur, donc voilà. Donner de la dramaticité au passage.
Donc c'est une manière de détimbrer alors, littéralement.
C'est une manière ouais, tout à fait, d'étonner, de créer un choc même.
Luca Montebugnelli, on vous entend donc là à l'instant pour Devienne, maître du jeu de basson.
Oui,
vous dites que
c'est plutôt l'idée de mettre le jeu de basson.
C'est
en fait,
pas écrit dans la partition.
Ah,
Devienne n'y est pour rien. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est un ornement de timbre, de clin d'œil mondain ?
Je ne sais pas. Alors, tiens que cet arrangement, d'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait pour piano. Donc, en fait, c'est moi l'arrangeur qui a décidé en plus d'ajouter le basson. Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de l'ornementation, cet emploi de pédale. C'est plutôt dans le cadre de la registration, comme on fait pour des orgues, à l'orgue ou qu'on fait au clavecin. Donc, de changer les registres, changer vraiment le son de l'instrument pour caractériser, identifier des parties de la pièce, des sections, en fait. Créer des sons qui vont avec une certaine écriture, l'évocation d'un certain caractère.
Ouais.
Je pense que c'est ça, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute pour orner, c'est vraiment quelque chose pour caractériser la musique.
Mais alors, si ce n'est pas sur les partitions, si ce n'est pas dans les traités, alors qu'il y a quand même pas mal de méthodes de piano qui se publient dans ces années-là, ça veut dire que les compositeurs ne prennent pas très au sérieux, Eloy Saïs ?
Je ne sais pas si je le dirais comme ça. De toute façon, il y a des sources, il y a quelques sources, conseils de registration. Donc, je ne dirais pas que le compositeur de l'époque ne prenait pas ça au sérieux. Cela dit, ça, il faut aussi... le message est plus nuancé que cela, parce qu'il y a des compositeurs très, très connus, comme Hummel à l'époque, qui critiquent fortement aussi l'utilisation de ce genre d'artifice comme pour masquer ou cacher l'incapabilité de créer des sonorités différentes juste avec ses propres moyens ou avec les doigts du pianiste.
Donc lui qualifie ça de mauvaise virtuosité en quelque sorte.
Oui, mais bon.
Ouais, Lucas.
Oui, il y a des compositeurs qui disent que ce sont les charlatans qui utilisent les pédales. Ah oui. En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, les premiers pianistes pédagogues qui ont acquis des méthodes et qui ont parlé de pédales, c'est pour défendre l'utilisation de la pédale, des pédales d'ailleurs, et dit on a crié au charlatanisme quand on a commencé à utiliser les pédales, et maintenant tout le monde s'aperçoit que finalement c'est très utile pour varier le son du piano, etc. Donc ça montre clairement une polémique à l'origine du piano, en fait, entre une école ou des écoles qui pensent que pour bien sonner, pour bien jouer, il faut utiliser exclusivement les doigts. C'est une position très aristocrate, très noble dans un sens, l'instrumentiste, le musicien qui joue seulement avec ses propres moyens. Et d'autres, puis il y a d'autres, une autre école qui dit non, on utilise toutes les possibilités du piano.
Alors, la Una Corda, elle est restée sur les pianos modernes, on peut soupçonner qu'elle n'est pas si charlatanesque que ça. On pourrait presque se dire que sur ces cinq pédales, il y aurait peut-être une échelle. Que le modérateur, ça va encore. Ça commence à être bizarre.
Le modérateur, je sais pas.
Ah bon?
Mais au début, c'était vraiment la pédale de résonance qui était
suspecte.
Ouais, oui, complètement.
C'est-à-dire ce qu'on appelait le jeu céleste à l'époque.
Non, le jeu céleste, c'est plutôt pas... le modérateur.
D'accord.
La pédale de résonance qui lève les étouffoirs, la grande pédale du piano. La pédale forte.
Voilà.
Oui, celle qui est restée aussi.
C'est celle qui est restée, bien sûr, qui fait partie absolument de l'instrument.
Très souvent, on disait que les pianistes qui essayaient de donner l'image d'un orchestre, de reproduire la sonorité d'une orchestre s'en servait, mais voilà qu'il y avait deux pianistes qui, en prenant ça comme habitude, utilisaient à chaque fois, et c'est pour ça qu'on appelait la pédale forte, parce que pour jouer fort, on mettait toujours la pédale, alors que c'est pas du tout nécessaire. Donc là aussi il y a la polémique.
C'est une histoire de polémique,
oui,
les pédales.
Oui, j'ai quand même l'impression qu'il y en a une qui est pire que les autres.
Il y a une qui est pire que les autres.
C'est celle qu'on n'a pas encore évoquée.
L'unanimité.
L'unanimité contre elle. Alors, elle s'appelle comment? Le janissaire, on dit?
Ouais, on peut l'appeler comme ça, ou bien les clochettes, le tambour.
Oui, parce que ce que vous m'avez appris, j'ignorais complètement, c'est que c'est la même pédale qui déclenche les trois d'un coup.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
En fait, c'est une pédale qui déclenche à la fois un tambour, en fait, un marteau qui frappe sur la table d'harmonie, qui fait un son très fort, comme une grande caisse, quoi, presque.
Ouais.
Et après, qui est lié aussi à une clochette ou des clochettes,
exactement,
ça dépend des modèles, et des cymbales, en fait, qui sont des barres en métal qui se collent aux cordes et donc qui font vibrer, produisent un son métallique comme des cymbales.
C'est une invention de qui?
Alors, c'est une invention en habit, donc, de la fin du XVIIIe siècle.
Parce qu'on en trouve sur l'automate de Winkel en 1823.
Oui, non, ça date de ce plus
sur
ancien.
Sur les panharmonicon de Miles
Zell. C'est très intéressant, parce que je suis persuadé que ça, c'est très lié à toute cette fascination de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, pour les instruments mécaniques,
et les horloges,
les automates, etc. Parce que là, il y avait plein d'effets percussifs, en fait. Et donc, oui, c'est le piano aussi comme machine, en fait.
Alors, vous pouvez nous le faire entendre, Eloy?
Bien sûr. Hein. Alors, seulement la clochette, cymbale. Donc là, on entend déjà le tambour.
Là, vous avez juste appuyé sur la pédale qui est tout à droite.
Hein. Exactement. Ouais. Et donc, si j'appuie doucement... Non, ça marche pas.
Ça marche pas, vouliez en fait délier les trois,
juste
c'est ça?
Juste délier les trois, c'est juste quand le piano est très très bien réglé, peut-être on y arrive. Mais en tout cas, on peut déceler le tambour, des petites clochettes et la cymbale. Et ça serait plutôt...
Donc là, vous l'avez doublé avec le jeu de basson?
Non,
j'ai juste mis la pédale de résonance. Là, je vais faire exactement la même chose avec le janissaire.
En fait, il y a quand même une distinction entre
ça, ils aimaient sans aimer, en fait, à l'époque. C'était le truc qu'ils adoraient détester.
Ouais, dans un sens que tous les pianos de cette époque l'ont, ou tous les pianos, non, pas tous les pianos, mais les modèles les plus chers, quoi, les modèles plus prestigieux, en fait, l'ont. Donc, signifie bien qu'il y avait un public, que les gens étaient intéressés, quand même, il y avait un intérêt. Mais les grands pianistes, les pianistes professionnels, ou bien ceux que, les vrais pianistes, disent que bon, ça c'est n'importe quoi, c'est des gadgets, qui n'ont aucun, des accessoires qui n'ont aucun intérêt. Et donc voilà.
C'est pour ça que vous, au XXIe siècle, vous l'utilisez, mais juste comme feu d'artifice à la fin ou...
C'est souvent le cas, souvent, en fait. Ouais. Souvent, on dit, bah écoute, il y a aussi la pédale, les Turkery, là, pourquoi pas, mais il y a un coup de caisse.
C'est un effet orchestral, pourquoi pas. Pourquoi ça fait l'effet c'est...
Et pourquoi on appelle ça Turkery? Parce qu'on l'utilisait essentiellement dans les Turkery musicales ou,
En fait, parce qu'on évoque vraiment cette fascination du XVIIIe siècle pour la musique. Des fanfares janissaires, en fait, qui a fasciné, inspiré les cours européennes tout au long du XVIIIe siècle.
Le bourgeois gentil.
Jean-Louis, en fait, absolument. Et donc, il est resté comme pour évoquer cette musique dès l'armée turque, les fanfares, comme ça. Donc, on ajoute des instruments percussifs, des cymbales, des clochettes, etc. Et donc, le piano, qui est un instrument orchestral, eh ben, il se doit d'avoir aussi cette possibilité.
Voilà. Là, je pense que c'est juste, c'est tellement évocateur, ça donne une image directe. Moi, je pense que tous les auditeurs, les gens qui entendaient ça, ce registre-là, ça s'appelle le janissaire parce que ça, il y a juste une image d'un Turc, voilà, avec tout ce qui va avec.
Bon, l'exemple plus connu, c'est la marche turque de Mozart, bien sûr.
Mais on l'a joué avec le janissaire ?
Bah non, en fait, parce que Mozart, mais c'est ça, en fait, à chaque fois qu'on...
Parce que Mozart, il est mort en 1791, donc il n'a pas connu ce truc-là.
On ne sait pas trop. Peut-être qu'il y avait des tests déjà. Peut-être, c'est possible, mais on ne sait pas du tout. En fait, c'est bizarre parce que nous, quand on doit montrer ça à des gens qui passent, on veut montrer un petit peu comment ça fonctionne, on joue tous la marche turque, mais fait, ça, c'est pas du tout historiquement correct.
Ouais. Alors, vous nous avez préparé pour terminer cette émission un petit menuet avec.
Alors, pas un menuet, mais c'est le deuxième mouvement de la symphonie militaire de Haydn.
Oui.
Donc, qui date de 1800.
1800.
Ouais. Et ça, c'est un arrangement tardif, plus tardif, des années 20-30. Et donc, c'est en tant que symphonie militaire, et ça décrit vraiment une bataille, en fait, une sorte de petite bataille, quoi. Et du coup, c'est vraiment idéal pour évoquer, pour utiliser ces registres, évoquer ces sonorités.
Bien, merci beaucoup, Loki Montagnelli, et merci, Loïc Orzaï.
Merci.